Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast ? Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vous écoutez, c'est creepy.
Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 58 en compagnie de Tatiana. Elle vient de nous raconter une affaire de secte, voilà, c'était hardcore. Et maintenant, c'est à mon tour de vous raconter une histoire. Donc, si vous n'avez pas écouté la partie 1, arrêtez-vous maintenant et allez l'écouter. Et voilà. Donc, Tatiana, tu vas toujours bien ?
Je vais toujours bien et j'ai très 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 hâte de connaître ton histoire qui apparemment va être un peu plus tranquille.
Oui, plus tranquille. C'est moins... voilà, il n'y a pas d'arrachage de doigts.
Spoiler.
Oui, pardon, excuse-moi.
C'est pas grave. Ok, bah tant mieux parce que là, c'était beaucoup.
Ouais, moi, mon histoire, c'est une histoire qui parle de paranormal parce que bon, comme tu parles de paranormal en général, bah voilà, je me suis dit, on va faire du paranormal. Et j'ai galéré hein, pour trouver cette affaire parce que je vous jure, il n'y a pas beaucoup d'histoires paranormales que je trouve... intéressante, crédible au point d'en faire un épisode. Donc voilà, j'ai creusé, j'ai trouvé ça. Et c'est intéressant. Donc voilà.
Ok, trop bien. J'ai trop hâte.
Ouais, donc si vous voulez savoir qui est Tatiana, bah normalement, vous le savez si vous écoutez l'épisode 1 en premier. Donc oui. Voilà, on va pas la faire se présenter à nouveau. D'habitude, non. On le fait, mais bon là, on parlera de son podcast à la fin, encore une fois, par contre. Voili voilou. Donc est-ce que tu es prête pour mon histoire ?
Je suis plus que prête, j'ai trop hâte.
Tu es plus que prête, yay! Avant de s'y mettre, je vous rappelle que cet épisode est aussi disponible en version vidéo et gratuitement sur Patreon. C'est accessible pour tous, donc profitez-en, il n'y a pas besoin de payer. Vous pouvez nous regarder en train d'enregistrer cet épisode, coucou! Et voir toutes les photos des affaires en direct. Donc n'hésitez pas à switcher maintenant si ça vous dit d'apercevoir Tatiana la magnifique, comme on l'appelle.
Qui porte le t-shirt C'est Creepy.
Et qui porte le t-shirt C'est Creepy du voilà. Merch. Si jamais vous aviez envie de les voir en vrai, voici Tatiana qui va défiler devant vous.
Voilà, regardez-moi ça, magnifique.
Voilà. Elle porte, je vais pas vous spoiler. Venez voir sur Patreon et
venez voir.
Et vous serez servi.
Venez voir, j'ai enlevé le t-shirt. Non, je rigole.
Petite musique creepy. C'est parti. Let's go. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qu'on intitule souvent l'histoire de la dernière sorcière du Royaume-Uni. Mmh. Et non, ce n'est pas une histoire qui date de je ne sais quel siècle, voilà, mais une histoire qui prend place dans les années 1940.
Mmh.
Donc la dernière sorcière... date de 1940 et elle s'appelle Helen Duncan. Est-ce que tu connais cette histoire ?
Pas du tout.
Magnifique.
Ça donne envie.
Donc, Helen McFarlane naît le 25 novembre 1897 à Callander, en Écosse. Elle est décrite comme étant une enfant bizarre. Les autres enfants dans sa classe ont peur d'elle car elle dit avoir des pouvoirs. En fait, elle dit pouvoir lire leur avenir et ça les rend tous mal à l'aise. Même la mère d'Helen, qui est absolument horrifiée par les propos de sa fille, enfin les soi-disant pouvoirs, quand celle-ci lui raconte qu'elle fait la Madame Irma à l'école, ça lui plaît pas du tout. Parce qu'en fait, sa mère, c'est une pieuse religieuse et elle est pas enchantée du tout par la nouvelle.
Mmh.
En grandissant, on la surnomme Hellish Nell, qu'on peut traduire par l'infernale Hélène. Tout le monde est au courant qu'elle a des dons mystiques et qu'elle est en mesure de communiquer avec l'au-delà. Donc voilà, elle voit l'avenir et elle arrive à communiquer avec les esprits, les morts, etc.
Ok.
Quand elle a 18 ans, elle rencontre un homme nommé Henry Duncan, avec lequel elle se marie en 1916. Je vais le dire Henry parce que voilà, j'ai pas envie de perdre du souffle. Henry, c'est un menuisier de profession et il a dû participer à la Première Guerre mondiale, qui l'a laissé handicapé et avec une santé fragile. Hélène et Henry auront 6 enfants. Et bon, ils vont pas rouler vraiment sur l'or. Donc Hélène, elle travaille dans une usine à temps partiel, une usine qui produit de la javel, histoire de ramener un peu d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Son mari, qui est au courant de ses dons médiumniques, l'encourage dans sa démarche de se développer, de développer ses dons et de les faire profiter au plus grand nombre, parce que pourquoi pas. Donc voilà, elle est très... Il est très supportif. Non, on dit pas ça en français.
Bref. Soutenant.
Il est très soutenant. À cette époque-là, le monde est pas très joyeux. Il y a eu beaucoup de morts, notamment à cause de cette fameuse Première Guerre mondiale, mais aussi à cause de la pandémie de grippe qui s'est produite juste après, donc de 1818 à 1919, et qui s'est propagée dans le monde entier. En 18 mois, un tiers de la population mondiale a été touchée par cette maladie, et on estime qu'à peu près 20 à 100 millions de personnes ont perdu la vie dans le monde. Donc pour vous rendre compte, si on retient la tranche haute, donc 100 millions de morts, ça ferait donc plus de victimes qu'ont pu faire les deux guerres mondiales réunies.
Waouh.
Donc voilà, juste un petit aperçu.
Plus que le Covid.
Ouais. Alors, je suis pas du tout au courant des chiffres du Covid, mais...
Moi non plus. C'était juste... J'ai sorti ça au pif.
C'était ton côté journaliste qui est censé...
Mon côté, j'ai vraiment les infos.
Ouais, ton côté Claire Chazal. Donc, voilà, c'est dans ce climat que les gens vivaient. Et de ce fait, il y a eu un gain d'intérêt pour les sujets qui touchaient au surnaturel, au spiritualisme, au spiritisme, etc. Ça rassurait un peu les gens de se dire qu'ils pouvaient peut-être communiquer avec les morts, avec des gens qui les ont perdus suite à tout cet enchaînement de tragédies en si peu de temps. Donc Hélène commence à mettre à profit ses dons de clairvoyance en 1926, parce que voilà, c'est la mode, se dit let's go. Elle commence à exercer dans la ville de Dundee, toujours en Écosse, et elle donne des séances. C'est comme ça qu'on les appelait. Donc c'est des séances de spiritisme. À savoir que Hélène, c'est pas la première à organiser des séances de spiritisme. Le spiritisme, ça a commencé dans les années 1850 aux États-Unis. Vous avez sûrement déjà entendu parler des sœurs Maggie et Kate Fox, donc les sœurs Fox, qui étaient très connues dans le milieu. Je raconterai peut-être d'ailleurs cette histoire un jour si ça vous intéresse, parce que elle a l'air incroyable cette histoire aussi.
Grave.
Donc voilà, c'était tellement populaire que ça faisait la une des journaux. C'était merveilleux. On pouvait prendre rendez-vous pour parler avec ses proches décédés, donc ça faisait du bien aux gens, c'était le Doctolib des morts.
J'allais dire le 3615, bah putain, t'as vu ça, comment je suis vieille. 3615 fantôme.
3615 fantôme, voilà, c'est à peu près ça. Et donc, c'est arrivé aux oreilles des Anglais, qui lisaient les journaux aussi américains, et qui se sont dit que ce serait pas mal d'essayer aussi au Royaume-Uni. Donc ni une ni deux, en 1853, la première église spiritualiste est fondée et commence aussi à faire des séances de spiritisme autour d'une table. Donc, je vous mettrai des illustrations, des gravures de l'époque où on voit comment ça se déroulait. Les gens sont tous assis autour d'une table ronde avec les mains posées sur la table devant eux et ils se touchent avec les petits doigts, vous savez, tous en randonnant. En 1890, le mouvement prend de l'ampleur au grand désarroi de l'Église, la vraie, qui, bien sûr, ne validait pas cette pratique et ses croyances. Bref, les spiritualistes s'en foutent, ça continue, ça grandit, et ils organisent maintenant la première réunion nationale des spiritualistes, et on recense au XXe siècle pas moins de 250 000 spiritualistes.
Mais attends, c'est carrément une secte, en fait, aussi, ton histoire.
C'est à peu près, oui.
Bon. Bah, quand même.
Oui, c'est vrai. Mais il va pas y avoir de trucs très chelous, en vrai.
Non. Ok, tant mieux. Toutes les sectes ne sont pas, ne coupent pas le doigt de leurs adeptes. Hein.
C'est vrai, mais...
Demande à Tom Cruise.
On les appelle quand même des sectes, donc.
Oui, c'est vrai.
Donc Hélène, c'est pas la première à se lancer dans ce milieu. Il y a des concurrents, hein, 250 000 spiritualistes dans le pays. Et il y a des personnalités connues de l'époque qui se laissent aussi prendre au jeu et qui s'intéressent de près au mouvement spiritualiste et qui vont même jusqu'à le défendre, comme par exemple l'auteur écossais Arthur Conan Doyle, que vous connaissez sûrement pour avoir créé le personnage et les histoires de Sherlock Holmes, évidemment.
Et oui, s'il y a bien un mec qui est connu, qui a écrit des livres, un mec écossais qui est connu, c'est lui.
C'est ça.
Enfin non, mais je veux dire que tout le monde connaît parce qu'on l'a tous appris à l'école, quoi.
Yes, mais par contre, moi, je savais pas qu'il était écossais. Je l'ai appris.
Ah ouais?
Ouais, non, je savais pas. Je pensais qu'il était anglais, quoi, tu vois.
Ah oui, 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 c'est vrai. Bah, Doyle, voilà. C'est plus écossais, non?
Je sais pas. Non, okay. Je sais pas. Non, bah, écossais, je sais pas. Je connais pas trop les noms écossais.
Est-ce que c'est en Irlande que t'as vécu, toi, pas en Écosse?
Ouais, c'est ça. Et les noms, c'est plus avec, tu sais, O'Connell, tout ça.
O'Connell, ouais. O'Brien.
Ah, ça va rappeler la meuf dans Downton Abbey.
Oui.
La connasse. Bon, on a aussi le même mouvement qui fait fureur en France avec des auteurs français qui s'y intéressent comme Allan Kardec, Victor Hugo, etc.
Les grands noms.
C'était une véritable mode. On pourrait en parler pendant des heures, en fait, de ce sujet, parce que il y a plein de choses à dire. Est-ce que c'était du vrai? Est-ce que c'était du fake? Il y avait le lot d'arnaqueurs et de charlatans à l'époque aussi, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que c'était très commun, entre guillemets, à l'époque, et tout le monde était curieux de ce mouvement. Et pour vous dire, on faisait même des séances à la Maison Blanche. Donc voilà, c'était...
ah ouais, carrément.
Tu vois, c'était, comment dire, tout le monde était curieux, tout le monde se prenait au jeu, quoi. C'était pas
ouais,
genre, oh là là,
d'essayer.
C'est un truc de gogol, tu vois.
Non. Ouais.
Ils
ouais,
le font à la Maison Blanche, ça les intrigue.
C'est validé si c'est fait à la Maison Blanche.
C'est ça. Donc, comment se déroulaient ces séances de spiritisme en question pour notre Hélène Duncan? Alors, Hélène, elle choisissait un lieu qu'elle plongeait dans le noir. Elle créait une petite ambiance cosy slash creepy en installant une petite lumière rouge. Et elle avait tout un mécanisme pour pouvoir rentrer en contact avec l'au-delà. Elle s'asseyait derrière un rideau. En fait, elle avait un espèce d'espace. Ça fait un peu comme une cabine d'essayage, tu vois. Elle se mettait à l'intérieur et le rideau, il lui arrivait comme ça. Là. Mmh. Et donc, elle s'asseyait comme ça. Elle se bandait les yeux et elle attendait de rentrer dans une transe.
Ok.
Voilà. Et une fois entrée dans cette transe, elle avait affaire à ses guides spirituels. Elle en avait deux, qui s'appelaient Peggy et Albert. Voilà.
Qu'on salue.
Et soudain, quand elle rentre dans la transe, il lui sort du nez et de la bouche un ectoplasme. Alors qu'est-ce qu'un ectoplasme? C'est une substance qui, je cite, est de nature indéterminée, prenant une forme plus ou moins précise et qui est extériorisée par un médium en état de transe. En gros, c'est Casper qui vous sort par les trous de nez.
c'est ça. C'est exactement ça, en fait, oui, c'est ça, c'est la... Oui.
Donc bien sûr, c'est impressionnant pour le public, parce qu'ils sont venus, ça leur fait un petit spectacle, quoi, c'est plus du... est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit pas? Non, elle a carrément un ectoplasme qui lui sort du trou de nez, et tout le monde est ébahi quand il voit ça, et bon, faut noter aussi pour leur défense que ces séances, ça se passe dans le noir quasi complet, on n'y voit pas grand-chose, il y a juste la petite lumière rouge, et en vrai, ils y voyaient pas grand-chose, tu vois. Donc ça peut être du fake, mais en tout cas les gens ils sont tellement choqués parce qu'ils s'y attendent pas que...
Ah ouais, à cette époque-là, comment elle aurait pu faker ça?
Alors, je vais te le dire tout de suite. Donc en 1928, il y a un photographe qui lui demande d'assister à ses séances et de venir prendre des photos. Et bizarrement, elle accepte. Voilà. Et il va prendre des photos, une tonne de photos. Donc pour ceux qui regardent cet épisode sur YouTube... Voici les photos. Sinon, vous les verrez sur mon site. Mais je te les envoie, Tatiana, comme ça, tu vas pouvoir voir de quoi on parle.
Oui.
Donc, moi, j'ai regardé ces photos. On la voit assise, tout en noir, avec le fameux ectoplasme qui lui sort de la bouche. Mm-hmm. Sauf que je vois pas trop comment on pourrait y croire, parce qu'on dirait clairement qu'elle a un rouleau de PQ qui lui sort de la bouche. Enfin, ça se passe.
Oh, je m'attendais tellement pas à ça, mais attends, je suis choquée. Attends, je suis choquée. Parce que moi, dans ma tête, je me suis imaginé un truc de ouf, hyper stylé, tu vois.
Ah, ma maman. Oh. C'est. Enfin, voilà.
Mais
quoi.
Là, ouais. Alors là, on est, ouais, j'avoue, on est plus proche de. On est moins proche de Gasper et on est plus proche de Kleenex, quoi, de Sopalin.
Non, mais là, clairement, elle se fout de notre gueule, quoi.
Tu vois. Ah, bah là, mais de ouf. Bah, c'est, ouais. C'est clair. Ça, c'est la photo que le photographe a pris.
Oui, en fait, lui, il a mis le flash. En fait, elle s'est dit, bon, il va prendre des photos, mais on va rien voir. Mais en fait, non, le monsieur, il a mis le flash. Donc, en fait, ça se voit tout de suite, parce que c'est une supercherie.
Ah non, mais c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, en plus de ça? On dirait que... Tu sais, on dirait... Je dirais rien.
Il faut voir pour comprendre. Ouais. Donc, voilà. Ouais, ouais. Moi, je vous explique un petit peu, ouais. mais n'hésitez pas à venir voir la vidéo pour voir ça. Donc, on dirait qu'elle a un rouleau de PQ qui lui sort de la bouche. Et on voit que c'est du tissu qui tombe par terre, quoi. Ça fait pas du tout effet fumée blanche.
Ah,
non, c'est un truc qui tombe au sol, quoi.
On dirait qu'elle a bouffé une couverture sur la deuxième photo, là.
Ouais, je te jure, c'est ça.
Oh ah non, mais attends, je viens de voir. Attends, je sais pas si on peut en parler tout de suite. La photo de...
Avec les deux photos côte à côte, là.
Ouais.
Je vais en parler, là.
Attends, ok.
Je vais en parler tout de suite. En fait, il y a une photo, justement, que Tatiana est en train de voir, où on voit ce truc blanc qui lui sort du nez et qui grossit en une espèce de soi-disant fantôme à côté d'elle. Mmh. Sauf qu'on voit que c'est une poupée style marionnette. Genre, elle veut faire passer pour un fantôme.
Ah ouais,
alors
ouais,
là, mais... c'est super creepy, c'est...
Oh,
mais dans le noir, tu vois, les gens, ils peuvent se dire « Ah ouais, c'est un fantôme, ah ouais,
ah bah dans le noir, ouais, ah bah de ouf.
Mais... Dans le noir, oui. Mais
et encore.
Ouais, et encore.
C'est à l'époque, tu vois. Mais j'avoue, mais là, c'est... Ouais. Mais il faut absolument que, mesdames et messieurs, allez sur YouTube regarder cette photo.
Ouais,
ou sur le site.
Ouais, ouais, c'est ridicule. Donc, en plus, ça lui sort même plus du nez, là. Si tu regardes bien, sur cette photo-là, elle a son bandeau. Mais genre, le tissu, il est coincé sous son bandeau. Il ne sort même pas du nez.
On dirait que ça sort des yeux.
Ouais. Et il me semble que c'est son mari. Son mari à côté qui tient les trucs. Bon.
Oh putain.
Anyways.
Ouais, bah, ouais, très mal fait. Mais après, voilà, j'imagine que par contre, c'est collector. Tu crois qu'il y a des gens qui collectionnent ces trucs?
Chez bah écoute, eux. Peut-être, je sais pas, mais on en reparlera après. Donc voilà, il y a tout un tas de gens sur qui ça marche, ils y croient, et puis après avoir effectué un tas de séances de ce type à travers tout le Royaume-Uni, Hélène, elle commence à se faire un nom, à être assez populaire. Mais du coup, qui dit popularité dit haters, donc elle a des détracteurs. Notamment un certain détracteur qui s'appelle Harry Price. C'est un mec.
J'ai cru que t'allais dire Harry Potter.
Non,
détracteur. Bah, t'as dit détracteur, donc
oui,
forcément.
Oui, c'est vrai. Mais c'est, attends, c'est ça qu'on dit, c'est un détracteur, non?
Ouais,
des détracteurs.
Oui, oui. Okay. Ouais, c'est dans Harry Potter, c'est pareil. Bref.
Ok. Bah, en gros, là, Harry Price, pas Harry Potter, c'est un mec ultra sceptique qui mène des recherches sur tout ce qui porte au psychique, paranormal, etc. Et qui, du coup, s'intéresse de près au médium.
Mmh.
Donc, voilà, okay. il va avoir l'autorisation de lancer une petite enquête, enfin, de faire sa petite enquête. Et en 1931, après cette enquête, il conclut que Hélène n'est rien d'autre qu'une charlatan, malgré le fait qu'il parvient pas à expliquer comment elle fait son coup de l'ectoplasme.
Ah bah, pour ça, c'est vrai que c'est dur à expliquer.
Ça devrait vraiment être dans le noir. De ouf, parce que...
Ah, c'est clair.
Voilà.
Ouais. Puis, elle, je sais pas, elle devait droguer les gens aussi, non?
Bah, je sais pas. Peut-être qu'elle en fumait la pièce de quelque chose, je sais pas, mais...
Ah, ouais, peut-être.
Donc voilà, bizarrement, il y a des fois où ça ressemble pas à un rouleau de PQ pour les gens, et ça a l'air réaliste. Mais voilà, il avance la théorie selon laquelle elle utilisait sûrement du blanc d'œuf qu'elle mettait dans sa bouche et qu'elle recrachait au bon moment, genre elle régurgitait le truc, bref, par la bouche ou par le nez,
oui.
Et que aussi elle utilisait du papier toilette, tu sais, pour rendre le truc plus blanc. Enfin bref, ça me donne envie de vomir, juste à régurgiter du blanc d'œuf.
En plus, après avoir vu les photos et avoir vu la femme en question, je me dis, mais en fait, elle aurait été capable de tout en vrai, parce que franchement,
ouais.
c'est archi abusé. Bref, vous irez voir.
Ouais. Donc, cette même année, un journal local rédige un article à son sujet. Donc, je pense peut-être que c'était Harry Price. Je sais pas, j'ai pas vu son nom par rapport à ça, mais je pense que c'était ça. Et cet article dénonce ses pratiques de fraude et d'imposture. Donc, une ancienne domestique d'Hélène, nommée Mary McGinley, va avouer avoir aidé Hélène à réaliser ses supercheries. Et elle livre toutes leurs méthodes. Elle aurait effectivement avalé des trucs pour les recracher pendant ses séances. Et ses dires, donc ses explications, auraient également été confirmées par le mari d'Hélène. Donc c'est un snitch.
Mais donc du coup, à ce moment-là, c'est fin, sa carrière est terminée ?
Écoute, bizarrement, non. Je pense que les infos circulaient pas aussi vite. Ou alors, ils n'avaient pas que ça à foutre que d'écrire... Enfin, je sais pas. Tout le monde était au courant, apparemment.
Oui, t'as raison. Aujourd'hui, t'as une info, n'importe laquelle, tout le monde est au courant en deux secondes. Mais oui, avant, ça mettait plus de temps.
Ça mettait peut-être un peu plus de temps. Et puis, tu sais, il y avait peut-être quelqu'un qui n'avait pas lu l'article. Et puis voilà, ça y est, les gens n'étaient pas au courant. Elle organise une nouvelle séance organisée le 6 janvier 1933 à Édimbourg. Elle va dire, dans cette séance, être en compagnie du fantôme d'une petite fille nommée Peggy. Et là, un homme du public se lève. Il casse l'ambiance. Il se lève et il attrape, Hélène. Et quelqu'un d'autre allume la lumière.
Ouah. Genre, c'en est trop.
C'en est trop. Il y a deux haters qui se lèvent, qui allument la lumière. C'est comme si nous, là, il y a deux haters qui arrivent, ils nous coupent le micro.
Putain, mais ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Et ben en fait, il voulait montrer que c'était une supercherie. Et là, tout le monde voit que l'ectoplasme n'était autre qu'un simple collant pour femmes. Et la police, elle est appelée sur les lieux. Et Hélène, elle est arrêtée.
Et elle doit rembourser tous les tickets des gens. Non, j'imagine.
Non, pas du tout. Ah, okay. Après, peut-être. J'imagine que oui, les gens ont dû demander notre argent, menteuse, tu vois, à la fin. Donc bon, ils sont peut-être... son mari est aussi accusé d'être son complice et de l'aider à faire apparaître ce fameux ectoplasme. Mmh. Elle sera condamnée par le tribunal d'Édimbourg quelques mois plus tard pour médiumnité frauduleuse et devra payer une amende de 10 livres sterling ou alors passer un mois en prison. Elle a le choix.
Ça va.
C'est pas mal, ça va. 10 livres, en plus, elle a dû se faire l'argent.
C'est clair. 10 livres, c'est bon, tu les as.
Ouais. Donc, on va dire qu'elle s'en sort plutôt bien, pour l'instant, parce que là, l'histoire va prendre une tournure, mais vraiment rocambolesque. Donc, la Deuxième Guerre mondiale éclate.
Aïe.
Hélène habite désormais à
Portsmouth,
là où se trouve aussi la base de la Marine Royale Britannique, qui est l'armée militaire maritime, des bateaux. Un soir de novembre 1941, elle est invitée pour une soirée médiumnique qui est organisée par un couple de Britanniques dans une petite pièce située au-dessus d'une pharmacie. Donc voilà, c'est très privé, petite ambiance, petit gramophone, tu vois,
chill.
Genre, voilà, petite chill.
Petit boudoir, ok, d'accord.
Ouais.
C'est whisky ?
Oui, whisky, bien sûr.
On est en Écosse, hein, quand même.
Oui. Les spectateurs sont invités à payer 12 shillings et 6 pence pour assister à la séance d'Hélène. Encore une fois, ça se déroule dans une pièce plongée dans le noir, avec comme seule lumière une petite lumière rouge. Hélène est assise, comme d'habitude, les yeux bandés dans l'encadrement d'un rideau. Et elle commence son épisode de transe en face du public silencieux. Son guide, Albert, prend soudain possession de sa voix. Oui, parce qu'en plus, tu sais, c'était pas genre « Ah, ça va Albert ? Ouais, ouais. Vas-y, là, je suis en transe, tu peux mettre... » Non, c'était « C'est Albert !» Enfin, tu vois, un truc du genre... un truc du style.
Oui. Albert, il a une petite angine.
C'est ça.
Je vois très bien. Ok, donc elle arrive quand même à bien modifier sa voix.
Voilà. Et modifier, je sais pas si elle le fait très bien, hein, si elle le fait aussi bien qu'elle fait son ectoplasme, bon, voilà. Mais en tout cas, il dit qu'il vient d'entrer en communication avec elle et avec un esprit qui a des choses à lui révéler. Et cet esprit se manifeste physiquement, donc par cet ectoplasme. C'est un marin près de la fenêtre. Qui serait avec eux dans la pièce. Et celui-ci leur fait une annonce importante. Son navire de guerre, qui n'est autre que le HMS Barham, a coulé. Donc pour le contexte, ce bateau-là, c'est un bateau de l'armée royale qui est énorme et qui est du coup super important pendant la guerre. Pour la faire court, c'est un des navires de Elisabeth, je sais plus combien là. Elle en a 5 en tout, je crois. Et donc voilà, c'est un bateau que tout le monde, entre guillemets, connaît. Et bref, c'est un bateau super important. Donc cet esprit annonce qu'un navire de guerre britannique a coulé. Ce qui était apparemment une info ultra confidentielle, puisque le gouvernement ne l'a annoncé officiellement que 2 mois plus tard.
Ok.
Donc, Hélène, elle joue avec le feu, là. Enfin, Albert.
Albert, oui, bien sûr.
Elle continue de faire plusieurs séances, et à chaque fois, les spectateurs ont le droit à de plus en plus de révélations en rapport avec la guerre.
Ok.
Et personne n'est au courant à chaque fois de ces news, en fait.
Ah ouais ?
Ouais.
Truc de ouf.
Ça remonte aux oreilles de l'armée, et notamment de 2 lieutenants qui viennent eux-mêmes assister à une de ces séances, le 14 janvier 44. Ils trouvent les soi-disant pouvoirs d'Hélène très grossiers, et ils remarquent très vite la supercherie. Donc l'un d'eux, il va être tellement écœuré et dégoûté qu'elle profite des gens comme ça, qu'il ira la dénoncer à la police, immédiatement. Après le show, là. Et seulement quelques jours plus tard, le 19, il y a des policiers qui vont aussi assister à un de ces shows. Parce qu'on va les appeler comme ça. Hein. C'est des shows, hein. c'est pas des séances maintenant. Mmh. Vu que personne n'y croit. Donc ces policiers assistent en civil au spectacle. Et ils vont l'arrêter. Donc au départ, elle est jugée... Enfin, elle est arrêtée pour être jugée pour escroquerie. Ayant enfreint une loi qui interdisait les activités de diseuse de bonne aventure et autres escrocs du genre. Mais vu qu'elle faisait seulement payer l'entrée de ses séances à ses clients et qu'elle ne les facturait pas pour la voyance en elle-même, il y avait de grandes chances qu'elle leur file entre les doigts une dernière fois, tu vois.
Ah oui, parce que c'est pas... En fait, elle faisait genre entrer les gens comme si c'était pour un spectacle, et pendant un spectacle, elle peut faire n'importe quoi, c'est pas...
Oui, voilà.
Elle dit pas, je vais vous prédire l'avenir en particulier, ou...
Ouais, voilà, c'est pas, ouais, vous venez, ouais, vous payez pour que je vous lise votre avenir, nanana. Donc ça ouais, correspondait pas vraiment à l'intitulé de la loi de diseuse de bonne aventure et tout.
Ok.
Mais bon, ils ont trouvé un compromis, comme ces révélations spirites tournaient un petit peu trop autour des sujets de la guerre à leur goût ces derniers temps, et qu'ils avaient peur qu'elle ait un mauvais impact, tu vois, dans leurs affaires, parce que bon, ça fout mal qu'il y a une vieille meuf là qui fait des shows un peu partout, qui annonce des trucs avant même que le gouvernement puisse annoncer le bilan de victimes, tu vois, à tout le monde. Bah, c'était chiant pour eux. Donc, ils ont décidé, à la place, de faire recours à une vieille loi qui datait de 1735. Et c'est une loi qui a été mise en place à l'époque des sorcières. Donc, c'est une loi qui interdisait toute personne de prétendre qu'un être humain détenait des pouvoirs magiques ou qu'il exerçait de la sorcellerie. Ça a été créé, comme je l'ai dit, à l'époque des sorcières. Et cette loi, elle avait pour but de mettre fin à la chasse des sorcières qui régnait à cette époque-là au Royaume-Uni. Ça empêchait les gens d'accuser n'importe qui de sorcellerie à tort et à travers, parce qu'ils disaient, écoutez, cette loi, ça dit que vous ne pouvez pas dire que les gens font de la sorcellerie, c'est ridicule, nanana. Donc, si on enfreignait cette loi, on risquait une peine de prison qui était équivalente à maximum 1 an de prison. Ça va.
Ah oh, ça va. Enfin, ça va. Ça me fâchait de faire 1 an de prison quand même.
Mais ça va.
Ouais, ça va. On a connu pire. Ouais, ça va. OK.
Et voilà, le cas d'Hélène Duncan est considéré comme, je cite, exceptionnellement grave à cause de ses propos sur la guerre.
Ah ouais, vous êtes du coup pour... je pense que tu vas me le dire après.
Ah, pour savoir ça ?
Bah ouais.
Alors, il y a des gens qui ont dit que c'était totalement possible qu'elle le sache parce qu'il y avait certains journaux qui parlaient de certains trucs. Enfin, apparemment... il y avait certaines news qui fuitaient dans des journaux. Enfin,
en gros, elle aurait pu avoir des sources, quoi.
Ouais, voilà. Elle aurait pu se concentrer là-dessus pour, tu sais, pour un peu surfer sur la guerre et puis se dire, vas-y, je vais essayer de trouver des gens qui vont me balancer des trucs, voilà. Après, là, ça s'est confirmé être vrai dans le cas du bateau, mais peut-être qu'elle racontait aussi des trucs sur la guerre, mais que c'était pas vrai, quoi.
Oui. Ok, d'accord.
Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle a réussi, mais j'ai pas plus d'infos là-dessus. Donc à cause de son cas qui est jugé comme exceptionnellement grave, elle sera donc jugée devant la Cour criminelle centrale de Londres. Donc elle sera pas jugée à Édimbourg dans son petit tribunal. Ils ont décidé de la juger à Londres, voilà. Et forcément, tout le monde parle de cette affaire parce que elle est présentée à tort partout comme étant une sorcière des temps modernes, tu vois. Mais c'est pas du tout, c'est pas vraiment. Enfin, c'est une loi qui a rapport avec les sorcières, mais c'est, elle est pas jugée pour sorcellerie, tu vois, vraiment.
Ouais, ok.
Donc voilà.
Ouais.
Mais en tout cas, les médias surfent là-dessus en mode c'est la sorcière des temps modernes, elle est jugée pour sorcellerie, alors que pas du tout.
Parce que de tout temps, les médias, de toute façon, ils en font
des caisses.
Beaucoup plus. Bah, ils en font des caisses pour vendre leurs journaux.
Ouais. Donc son procès commence le 23 mars 1944. Bien sûr, pendant le procès, il n'y a pas vraiment de preuves. Du coup, on interroge le public qui a assisté à la séance du jour où elle s'est fait arrêter par les policiers en civil. Et bien que le spectacle ait été ridicule, les autres spectateurs y croyaient dur comme fer. Et ils n'avaient rien de mal à dire sur le déroulé de la soirée parce que pour eux, c'était authentique. Hélène, pour sa défense, a même proposé au juge de faire une démonstration de ses pouvoirs au tribunal pour montrer que ceci, ben, était véritable.
Recule devant rien.
Non. Mais elle a dit, non, si, mon mari peut venir, mettez les rideaux, je fais ça tout de suite, non.
Oui, par contre, c'est ça, en fait, il lui faut tout, c'est ça. Mettez juste une petite lumière rouge.
Petite lumière rouge, problème. Vous inquiétez pas, monsieur le juge, bref.
Ok.
Mais il n'a pas voulu de ça. Dans sa salle, il lui a prié de s'abstenir, s'il vous plaît.
Oui, un peu de tenue.
C'est bon, on va pas... Merci. Et le 3 avril suivant, elle est jugée coupable et condamnée à faire 9 mois de prison. Ça va.
À chaque fois, on dit ça va. Nous, on aurait un jour de prison, on aurait trop le seum. 9 mois de prison, ça va.
Après le verdict rendu par le jury, le premier ministre de l'époque, Winston Churchill, qui a eu vent de l'affaire, écrit au ministre de l'Intérieur, Herbert Morrison, pour, je cite, « se plaindre de l'utilisation abusive des ressources judiciaires et de l'accusation qu'il qualifie d'une sottise obsolète. » Voilà, pour lui, c'est ridicule, c'est bon, vous perdez...
Joliment dit.
Voilà, vous perdez du temps avec vos histoires de sorcières, nous faites pas chier, des trucs plus graves.
On a d'autres choses, voilà, on a d'autres choses à fouetter, franchement. Voilà. Churchill, il avait le nez.
À sa sortie de prison, Hélène promet qu'elle ne se remettra pas aux séances. Elle dit à tout le monde qu'elle a arrêté, qu'elle a fini avec ça. Voilà, promis, quand je ressors, vous inquiétez pas, j'arrête. Sauf que c'est pas le cas, parce que elle est arrêtée en 1956, alors qu'elle est en train d'en faire une.
Alors c'est pas vrai.
Qui l'eût cru?
Elle a ressorti le rouleau de PQ.
Elle a ressorti le rouleau de PQ. Putain. Hélène mourra la même année, le 6 décembre. Oh, bah t'es triste maintenant.
Non, mais parce que c'était marrant son truc. Bon, bref,
tout à l'heure, avec la secte, on était en mode « Ah, bien fait pour ta gueule !» Et là, on est en mode « Oh, la pauvre !»
Bah oui, parce que bon, ça va. Bon, ok, elle se foutait un peu de la gueule des gens en leur faisant croire des trucs, mais en soi, c'était juste une femme qui essayait de gagner sa vie dans un monde d'hommes.
C'était juste une femme. Girls just wanna have fun, ok?
C'est ça, laissez-la tranquille. En plus, dans un monde en guerre, c'est bien, elle divertissait le peuple.
Voilà, c'est un show de marionnettes, mais... Bon, bref. Oui. Et tenez-vous bien, les spirites attribuent sa mort à sa dernière arrestation soudaine. Vous savez, lors de sa représentation, là où les flics sont venus. En fait, ils disent qu'elle aurait été interrompue trop brusquement par la police, alors que l'ectoplasme sortait de son nez. Et du coup, qu'il est re-rentré en elle si rapidement, quand ils ont allumé la lumière, que ça a eu un impact sur sa santé.
D'accord.
Donc... Bon, ça, c'est l'explication des autres médias, mais en vrai, elle a toujours eu la santé fragile, apparemment. Elle était obèse et elle avait des problèmes cardiaques.
Mmh. Surtout si, en plus, elle me foutait des œufs dans sa bouche. Bah, elle a peut-être des bouts de coquilles qui sont restés. Ah ouais, non, mais voilà. Elle faisait, enfin, non. Voilà. C'est pour ça que... Ouais. Bah après, tu vois, elle n'était pas protégée par la sécurité sociale. Elle était sûrement en auto-entrepreneur, la pauvre. C'est pour ça qu'elle est morte dans la misère.
Ouais.
Je suis de tout cœur avec elle.
Qu'a fait la sécu ? Rien.
Putain. Rien, une fois de plus.
Oh, voilà, c'est dingue.
Voilà.
Donc voilà, elle est morte. Et aujourd'hui, il est par contre possible d'aller voir le fameux ectoplasme qui lui sortait régulièrement du nez.
C'est pas
il
vrai.
Il est conservé au musée de la librairie universitaire de Cambridge.
Trop bien.
Voilà.
D'accord. Est-ce qu'on aura une... Bah, on les voit les photos, mais est-ce qu'on a une photo de comment il est exposé ?
Alors, apparemment, il y a une photo sur Internet. Bah écoute, il y a ça, mais je sais pas si c'est... Ouais. L'ectoplasme en question.
On dirait... C'est très abstrait.
Ouais, on dirait du blanc d'œuf.
Oui. C'est peut-être ça, du coup.
Non, c'est pas un collant. Ce serait en fait un long morceau de tissu de soie synthétique.
Ouais, c'est ça. Avec une petite lumière derrière qui, effectivement... Là, tu vois, on dirait plus quelque chose qui ressemble à un ectoplasme pour les photos. Alors que quand oui. Tu vois les photos qui sortent, ça
mais parce qu'ils l'ont mis en valeur, tu vois. Ils ont fait bah un oui. Petit effet de flou et ça te bah donne l'impression ça. Que c'est diffus.
Ouais, exactement. T'as vraiment trouvé le mot, c'est diffus.
Depuis, quand on fait référence à Helen Duncan, on parle d'elle comme étant la dernière femme à avoir été condamnée pour sorcellerie au Royaume-Uni. Mais en fait, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas très vrai du coup. Et maintenant, bah, on fait référence à elle non pas pour ses capacités médiumniques et ectoplasmiques du blanc d'œuf, n'est-ce pas, mais pour sa longue carrière de charlatan.
Ah.
Voilà, c'est la fin de mon histoire.
Est-ce qu'on dit charlatante ? Non.
Charlatane ? Je sais pas.
Charlatane ?
Charlatine. Bah justement, je me suis posé la question, mais j'ai eu la flemme d'aller chercher. Charlatane. Alors là, okay. Je donne je donne de matière aux haters qui vont me dire « Elle a eu la flemme d'aller chercher !»
Vous n'avez pas la flemme d'écrire des commentaires, par contre, malheureusement.
Ah, le féminin charlatan se rencontre chez Voltaire. Donc, si Voltaire l'a dit, c'est charlatan.
Ah, bah charlatan. Voilà, charlatan. J'aurais dû appeler ma fille comme ça. Charlatan.
Charlatan.
Référence à Voltaire. Ok, et bah trop bien. Franchement, alors je m'attendais pas à ça quand tu m'as dit j'ai une histoire paranormale un peu drôle.
Moi non plus.
Mais alors là, franchement, trop trop ouf. Je me demande quand même comment elle a fait pour avoir toutes ces infos. Oui, t'as raison, elle devait avoir une source et tout.
Ouais.
Mais elle est trop. En fait, elle aurait jamais dû accepter des photos. Elle aurait dû toujours dire.
Bah oui.
Tu sais, comme dans les musées, vous laissez vos bouteilles d'eau, ouais, vos machins, ouais. Vos trucs à l'entrée.
Elle s'est surestimée de ouf.
Mais grave. En fait, je crois qu'elle s'est pas rendue compte. Elle a jamais vu son show, tu vois. Elle s'est pas rendue compte à quel point un flash est tout
elle
est foutu.
Elle savait que le flash existait, peut-être. Elle s'est dit, ah merde.
Ouais.
Il y a un flash.
Ouais. Et en plus, deux fois, elle a fait de la tôle. Deux fois. Ou trois fois. Non, trois fois, elle a fait de la tôle. Non, deux fois.
Non,
deux
la
fois.
Première fois, elle n'a pas fait parce qu'elle a pu, je pense qu'elle a dû payer l'amende. Hein. Elle est pas
ah oui, c'est vrai.
Mois.
C'était payé.
Et la deuxième
mois.
Fois, elle a fait 9 mois de prison, ouais.
Ouais, bah ouais, je trouve que c'est un peu cher payé pour juste essayer de gagner sa vie en entourloupant les gens.
Ouais.
Hein, tu vois, aujourd'hui avec TikTok, bon nombre de personnes iraient en prison.
C'est vrai. Et à un moment, j'avais même lu qu'il y a quelqu'un qui avait voulu venir filmer les séances et elle a dit non.
Ouais. Ah là, voilà. Eh, une fois, pas deux. Hein.
Oui, là, tu vois, les gens, ils auraient pu se replay le truc... Enfin, se repasser le truc et voir, tu sais, son mari dans ses mouvements, là, tu vois, ça aurait été...
Bah oui. Cela dit, c'est dommage parce que j'aurais trop aimé voir les images du spectacle, quoi.
Ah bah oui.
Enfin, du spectacle, pardon, de la séance de spiritisme.
Bah là, on a quand même beaucoup de photos, hein, je trouve.
Oui. Ouais, mais tu vois, en film, c'est pas pareil, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Ça aurait été énorme, mais bon.
Là, regarde, si tu regardes la troisième photo en partant du bac que je t'ai envoyé, on dirait que son mari, il en a même marre à côté.
Ah, c'est son mari, là, le gars à côté?
Mais je crois que c'est lui.
Ah ouais, il est en mode au bout de sa life. Il est en mode,
putain, mais
regarde-toi.
Que...
je crois qu'on est allé trop loin dans notre délire. J'avoue, elle est drôle, cette photo, parce que le mec à côté, en dépression, genre, oh là là.
Ouais, putain.
Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement faire du pain pour gagner notre vie? ou autre chose? Ouais, et bah trop bien, elle était trop cool cette histoire. Franchement, ça m'a détendue là.
Oui, après, je me suis dit, bon, bah, ça va être cool parce que ça va.
Ouais.
Donc, désolé pour ceux qui s'attendaient à une histoire de fantôme et tout, mais excusez-moi, il n'y a pas vraiment d'histoires qui sont très, très crédibles quand on cherche en ligne. Donc,
c'est hyper dur de trouver des histoires paranormales en ligne crédibles, ou alors, enfin, sauf celles dont tu as déjà parlé dans ton podcast, en fait, ou celles dont tout le monde parle, voilà, qui sont hyper connues.
Ouais, et j'ai pas envie de parler des trucs hyper connus parce que d'ailleurs, on m'a dit t'as fait que des trucs connus la dernière fois avec Kurt. Il y a plein d'histoires paranormales en France, moins connues. Fallait me les dire, en fait.
Bah ouais,
n'hésitez pas à me les donner. Parce que moi, quand je cherche, je ne trouve pas. Donc, n'hésitez pas. Je me suis dit, ça, c'était pas mal. Ça fait, ça touche au paranormal. C'est une arnaqueuse, un petit peu.
Ça change.
C'est sympa. C'est un peu historique. J'aime bien. Puis, il y avait un tournant avec la guerre où elle s'est fait, son histoire, enfin, sa supercherie a pris une ampleur, mais vraiment, au point de se faire juger pour, entre guillemets, sorcellerie.
Et de se faire shut down par Churchill, genre.
Ouais, c'est ça, genre en mode putain, mais quel. Il a dû regarder les photos, il s'est dit sérieux.
A-t-on vraiment du temps à perdre avec
l'argent
cette personne?
L'argent public, va dans ça.
Ça l'a désespéré, le pauvre. Ouais. Mais en tout cas, voilà, elle a réussi à se faire connaître de Churchill, ce qui n'est pas rien finalement, c'est une petite
c'est
victoire.
Vrai.
Tu vois, peut-être que même il en a parlé à la reine.
Ouais. Et puis au final, peut-être que tous les gens qui faisaient du spiritisme à cette époque, c'était vraiment tous des charlatans. Parce que c'était un business de ouf. Et les Sœurs Fox, c'était pareil. Il faudrait peut-être que je la fasse, par contre, celle des Sœurs Fox. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à la faire.
Et moi, je la connaissais pas. Tu vois, l'histoire à Versailles et tout, et l'histoire des tombeaux, c'est des histoires que je connaissais pas. Donc, dire qu'elles sont hyper connues, non, c'est faux.
C'est moi, je les connaissais pas, hein, franchement. Puis, je tombe pas dessus quand je tape histoire paranormale ou quoi.
Bah non, moi non plus. Donc
voilà.
Trop bien. Trop, trop bien. C'était trop cool de refaire deux épisodes pour C'est Creepy avec toi, en tout cas.
Yes, c'était un plaisir de vous avoir, chère Tatiana. Tu reviens quand tu veux.
Allez, bientôt. on se refait ça. Franchement, c'est... En fait, le plus dur, je trouve, c'est de trouver des histoires... des histoires qui n'ont pas été faites encore et qui sont intéressantes et tout. Mais c'est vrai que moi, personnellement, même s'il y a des histoires qui peuvent sembler... connues, je trouve que c'est pas grave de les refaire à ta sauce parce que tu les fais différemment, tu donnes peut-être des détails différents ou plus. Enfin, en fait, je trouve que c'est jamais pareil d'un podcast à l'autre. Puis, franchement, il y a plein de gens qui connaissent pas les histoires même les plus connues et qui peuvent tomber sur ces creepy et apprécier le fait que Vanny raconte des histoires même connues à la sauce Vanny, quoi. Et n'hésitez pas à nous dire aussi, si vous voulez spécifiquement qu'on fasse des affaires toutes les deux. Si vous avez
peut-être
des idées pour, ça peut nous encourager, nous motiver aussi à refaire des épisodes à deux.
Yes.
Parce que c'est vrai que le plus dur, c'est trouver les affaires au final.
J'ai passé beaucoup de temps là à chercher un truc paranormal et c'était chiant. Un peu.
Donc n'hésitez pas à nous mâcher le travail et comme ça nous on enregistre encore plus d'épisodes.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Donc voili voilou. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Je ne pense pas. Comme d'habitude, vous aurez mes sources et les photos aussi sur mon site.
Venez nous dire ce que vous avez pensé des épisodes.
Oui,
comme
venez.
Comme on disait, par tous les moyens.
Mettez-nous un commentaire, laissez une note au podcast et allez écouter le podcast de Tatiana qui s'appelle
La Société de Minuit.
Waouh! Oh my god, ça m'a fait des frissons. La Société de Minuit, podcast où il y a des témoignages de gens qui ont vécu des trucs paranormaux. Et ça fait flipax depuis quelques temps. Là, il y a des histoires, comme je l'ai dit dans la partie 1, qui sont horribles.
Horrible. Carrément, horrible.
Ah bah oui, horrible, excuse-moi. Quand t'es tout seul chez toi et qu'il y a des portes qui claquent...
c'est
pas spoiler, mais des portes qui claquent et tu crois que c'est ta mère qui est rentrée, mais en fait non, enfin excuse-moi, mais ça fait peur. Je vais pas en dire plus. Ah oh, mais je viens de me rappeler de l'autre histoire là avec non. D'ailleurs, comment s'appelle cet épisode? Je vais vous dire tout de suite, comme ça vous saurez de quoi je parle. C'était Ligne occupée et Ma bête noire.
Donc l'avant-dernier et avant-dernier et pour l'instant épisode.
Oui.
Ouais.
Mais bon, comme tu sors des épisodes tellement souvent que
oui, bien sûr.
Je vois plus dire avant-dernier et tout.
J'aimerais bien en sortir plus, mais c'est vrai que... En fait, ce qui est trop frustrant, c'est que j'ai tellement d'épisodes enregistrés. J'en ai plein dans mes tiroirs qui n'attendent que d'être montés et qui sont incroyables. Donc, mais bon, ça arrive. Hein. Promis, je fais au max pour les sortir.
Donc allez soutenir Tatiana sur Patreon aussi. Et comme on vous a dit dans la partie 1, si jamais vous ne l'avez pas écouté, ou si vous écoutez à l'envers, allez écouter la partie 1 et vous saurez de quoi on parle, on ne va pas se répéter. Tous les liens seront dans la description, comme d'habitude. Je sais que certains ne savent pas comment accéder pour... on me dit souvent, je ne trouve pas ton Twitch, je ne trouve pas là, le lien du site. Je sais que sur Spotify, c'est un peu chiant, mais je crois qu'il faut cliquer sur le titre de l'épisode quand vous l'écoutez, pour que ça vous emmène sur la page de l'épisode. C'est bizarre, c'est fait bizarrement. Mais en gros, quand vous voyez pas, vous cliquez un peu partout jusqu'à ce que vous ayez la description de l'épisode et vous aurez le lien de mon Patreon pour regarder cet épisode gratuitement et d'autres épisodes gratuitement aussi. Vous aurez le lien du Patreon de Tatiana, le lien du podcast de Tatiana et le lien de mon Twitch. Donc ça se trouve dans la description. Sinon, vous tapez Twitch c'est creepy sur Google et vous allez trouver.
Hyper facile à trouver.
Du coup, voilà, j'espère que nos deux histoires vous auront plu, que cet épisode 58 en lol et en eww vous aura plu. Notez le podcast, s'il vous plaît. Mettez-nous une note. C'est très important pour les podcasts. Si vous nous écoutez, prenez 5 secondes et mettez-nous une note sur Apple Podcasts, sur Spotify, etc. Mmh. Ça nous
et
fait.
Et un petit commentaire.
Voilà, ça nous détend.
Ouais, c'est cool de pouvoir lire vos retours et puis surtout ça fait connaître le podcast et on dirait pas comme ça mais c'est beaucoup de travail et de passion. Donc ouais. Ça fait trop plaisir quand vous avez écouté, vous avez aimé, si vous pouvez prendre 2 minutes. Voilà, comme quand vous notez un resto sur TripAdvisor, c'est
ouais,
le même principe.
Ouais, pour dire que c'était dégueulasse et que vous n'y retournerez jamais. N'hésitez pas à faire pareil pour nous. Enfin, pas nous dire que c'était dégueulasse, mais que c'était magnifique et que c'était le meilleur podcast que vous avez jamais écouté.
C'était vraiment un moment très agréable.
Merci Tatiana d'avoir participé.
Et merci
du coup,
à toi.
Est-ce que tu es prête?
Oui, je suis prête.
Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy. T'es encore là? Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy? Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend.
Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balles à blanc, en fait.
Ok.
C'est pour faire peur. Ah, mais...
Je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce qu'il s'appelle. Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie. Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant.
Quelle indignité.
Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Ed Gein, mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple. Tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite pour plus d'histoires bien...
creepy.